série de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. De Jean Blot vient de paraître chez Gallimard dans la collection Le Sentiment géographique, collection dirigée par Christian Giudicelli, Tout sera paysage. Un recueil de textes consacré principalement à des villes, en l'occurrence des villes des ex-pays frères de l'URSS et leur aspect nouveau, Prague, Bucarest, Budapest, Varsovie, mais aussi des îles, Santorin, Chypre, Andros, mais encore les faubourgs de Carthage, des lieux où surgissent des visages de la littérature, de toutes les littératures. Le 15 juin 2008, Jean Blot était l'invité d'Olivier Germain-Thomas dans Fort intérieur.
Fort intérieur avec Jean Blot, une émission d'Olivier Germain-Thomas. Les cosmopolites. Ah, comme ce titre d'un roman publié en 1976 chez Gallimard vous va bien, Jean Blot. Vous qui êtes né en Russie, avez accompli vos études en Grande-Bretagne et en France, avez défendu une thèse sur la Corée, avez été fonctionnaire international à New York, à Genève, vous avez également été responsable du Pen Club international, vous y avez encore des responsabilités, et vous vivez une partie de l'année sur une île grecque. Alors, je m'arrête avec la géographie. On aura compris que si le théâtre de vos activités a été le monde, il en est de même de votre œuvre littéraire, vos romans, d'où se dégage un parfum international, et vos essais, où l'on retrouve la Russie, la Grèce, l'Asie, Ossip Mandelstam, Goncharov, Nabokov, les écrivains du Bloomsbury, Albert Cohen, etc. À nouveau, j'en passe. Mais voici qu'en 2008, coup sur coup, deux nouveaux ouvrages surprenants nous arrivent. Et quand je dis qu'ils sont surprenants, je ne parle pas seulement de leur qualité littéraire. Ils nous surprennent par leur thème. L'un est consacré à Mozart chez Gallimard, dans la collection Folio Biographie. Jean Blot, emporté par le Don Juan ou par le Requiem, quelle bonne nouvelle. Et un autre, publié au Rocher, qui est une confession, un aveu, malgré le titre de roman dont nous parlerons ensemble, et que j'ai lu comme la lumineuse histoire d'un amour vrai entre deux artistes, Alexandre et Nadia, qui mettent un certain temps à se trouver et qui mettront un temps quasi infini à continuer à s'aimer plus de 50 ans après. Bien, nous allons commencer par nous dépêcher de vous suivre avant d'atterrir sur vos deux derniers livres. Alors, première étape, mais elle a été très courte pour vous, la Russie entre la Révolution et la Deuxième Guerre mondiale. Donc, vous parlez russe, peut-être que le tempérament artiste slave coule dans vos veines, mais on ne peut pas dire que la Russie, par ses paysages, vous ait beaucoup marqué.
Non, pas vraiment, parce que mes parents attendaient l'heureux événement pour partir de cet heureux pays. Et donc, je n'ai aucun souvenir de Russie à cette époque-là. J'ai évidemment gardé une certaine sensibilité, et j'ai gardé la langue. C'est tout de même la langue en laquelle ma mère me parlait, évidemment une langue maternelle au sens fort du terme, même si vous la parlez mal, ce qui malheureusement est mon cas, au moins avec des fautes de grammaire. Mais là, j'ai de la chance, parce que Pouchkine a écrit pour moi que, de même que des lèvres roses sans sourire, la langue russe sans faute grammaticale ne lui plaît pas. Alors, lorsque je dois prendre la parole en russe, je commence toujours par citer ces vers de Pouchkine, et ainsi, je peux faire toutes les fautes de déclinaison. J'ai le public avec moi.
Alors, d'autres cultures vous ont marqué. La culture britannique vous a marqué. Vous parlez anglais couramment. Une partie de votre carrière s'est passée, justement, à la fois à New York ou même à Genève, mais en langue anglaise. Donc, qu'avez-vous gardé, qu'avez-vous pris de chez nos très chers voisins britanniques.
Non, c'est très précieux. C'était peu de temps, hein, ces 5 ans, mais évidemment, c'était entre 12 et 17 ans, c'est-à-dire
oui, les études, mais ensuite, à New York, vous avez retrouvé
l'univers anglophone. Bon, ensuite, j'ai retrouvé, mais l'essentiel de la vie se fait avant 20 ans, hein, je crois. Le bonhomme est construit vers 18 ans. Après, il s'améliore, il se détériore.
On dit même avant 2 ans.
Alors, vous voyez. Oui. Alors là, évidemment, l'Angleterre n'est plus en cours.
Oui.
Bon, bah, si on admet de pousser jusque-là. Alors oui, il y a un certain style, une certaine discipline, une certaine distance à l'égard des choses, un certain rapport à autrui et à la société, un devoir de bonne humeur, une souplesse de l'humour que j'espère avoir. Et si je les ai, je les dois à l'Angleterre.
Dans le fond, des deux côtés, on voit des qualités.
Oui, on voit aussi pas mal de défauts.
Sauf si vous avez chargé un peu la barque du sentiment.
Oui, oui bon,
mais en fin de compte, sans la barque du sentiment, il n'y aurait pas eu une vie à deux. Alors,
certainement.
Alors, on ne peut pas charger cette barque quand même.
Non, mais je n'ai pas de reproches à adresser au pays d'où je viens. Les reproches, je dois les adresser à moi-même.
Oh là là,
quelle modestie.
C'est beau, non mais c'est beau. Là, on est tous très émus. Et je continue, Jean Blot. Voilà, donc la langue que vous avez choisie est la langue française. C'est quand même là où vous habitez souvent, même si vous êtes attiré parfois par les îles de la Méditerranée. Vous avez hésité dans le choix de la langue ou elle s'est imposée
jamais.
À vous ?
Pour moi, la langue française est la langue de l'esprit. La langue française est la langue en laquelle je veux écrire. Je n'ai aucun intérêt à écrire. J'ai écrit beaucoup de rapports, des discours et des choses comme ça en anglais. Mais jamais rien écrit en anglais de ce qu'on appelle écrire. Et pour moi, ça a toujours été, la langue française a toujours été la langue vers laquelle je voulais tendre, la langue qui était la consécration du sentir. Quand je sens quelque chose, que je ressens quelque chose, je n'ai de paix que si j'ai réussi à le dire en un bon français.
Vous dites sentir, mais d'une manière parfois un peu caricaturale, quand on parle de la France ou de la langue française, on insiste sur la rigueur de sa construction, sa clarté. Alors, est-ce que cette clarté ne va pas un peu combattre le sentiment slave qui pousse plus vers l'exagération, le sentiment, etc., etc.
Mais justement, je crois qu'il ne sera digne de s'appeler sentiment, enfin, qu'il n'aura la dignité de l'existence, ou qu'il pourra y prétendre, que s'il peut affronter la clarté, la beauté, l'élégance du français et en sortir victorieux.
En fait, vous me faites penser à une très belle page des carnets d'Albert Cohen, Cohen que vous avez connu à Genève, sur lequel vous avez vous-même écrit, où il montre que tout grand écrivain doit être à la fois avoir cette sorte d'âme d'enfant. Là, on y mettra de manière un peu schématique, mettons, l'âme ruse qui se laisse un peu aller, qui est sentimentale, qui ne voit pas le temps passer, et en même temps être comme une sorte de vieillard méticuleux, lucide, qui observe tout. Il y a peut-être de cela chez vous, hein, ces deux
méticuleux,
qualités.
Méticuleux, je ne pense pas.
Non.
Mais j'ai une formation de juriste, tout à fait par hasard. Et je pense que cette formation de juriste m'a tout de même aidé. Et surtout, il y a cet amour du français. Je crois que dans l'amour du français, il y a l'amour de la clarté, il y a l'amour du dire clair et du parler juste, du parler droit. Je crois que c'est là l'amour du français. Je veux dire, j'adore le russe et j'adore l'anglais. C'est pas du tout ce que je veux dire, mais c'est ailleurs, c'est autrement. Enfin,
quand avez-vous senti que vous alliez devenir écrivain?
Oh, je sais pas, j'ai l'impression que c'était à peu près... c'est une histoire idiote, je vous raconte volontiers. Les Russes ont l'habitude de tondre leurs garçons afin que ceux-ci aient de beaux cheveux lorsqu'ils sont vieux. Ça marche ou ça marche pas, dans mon cas, vous voyez, ça a plutôt marché. Enfin, j'en ai beaucoup. On m'avait tondu et j'étais extraordinairement malheureux. Je me trouvais très, très laid. Et alors, j'ai essayé de surmonter cela en écrivant une pièce en 25 actes. J'avais 8 ans et qui s'appelait Jules César, qui était très supérieur à Shakespeare parce que je prenais Jules César à la naissance et je ne le quittais qu'au moment où il mourait. Mais à ce moment-là, évidemment, il est certain que j'ai compris la compensation que l'on pouvait trouver dans les lettres.
Ce qui voudrait dire donc que chacun de ces livres est arrivé pour compenser un malheur.
D'abord on prend l'habitude du malheur, ensuite on prend l'habitude de faire des livres.
Et puis là, ça serait pousser le bouchon un peu loin. Donc vous avez cherché dans deux grandes directions, l'essai et le roman, même si il y a aussi chez vous de la poésie, que j'ai eu le plaisir de lire. Enfin, disons que l'essentiel de votre œuvre est essai et romans, et vous passez allègrement de l'un à l'autre.
Je l'espère.
En tout cas, dans la production actuelle, Une vie à deux, intitulée roman, bon, c'est une histoire vraie, mais c'est un roman, nous allons voir pourquoi, et Mozart serait plutôt du côté de l'essai. Cela dit, jusqu'à maintenant, vos essais étaient, en dehors des livres de voyage, étaient plutôt des essais sur la littérature, et maintenant voici un livre sur la musique.
Oui, ça c'était assez courageux ou assez
téméraire.
Intrépide, oui, plutôt téméraire. Seulement, voyez-vous, ce qui m'a encouragé, c'est ceci, c'est l'idée que Mozart n'a pas écrit pour les musicologues, ni même pour les musiciens. Il a écrit pour des gens comme moi, c'est-à-dire des gens qui aiment la musique. Et que j'avais une grosse dette de reconnaissance, simplement à son égard, parce que vraiment, parmi les plus jolis moments de bonheur, les plus purs, les plus évidents, que j'ai éprouvés, ben, c'est à l'écoute de Mozart. Qu'il y avait une dette à payer, si on avait l'occasion de la payer, c'était tant mieux. Et puis il y a une autre chose qui m'a mobilisé, qui est au-delà de la musique, qui s'exprime par la musique, mais c'est cette relation qui pour moi est essentielle de père et de fils, c'est-à-dire biographiquement elle est essentielle. Et je crois qu'il n'eut jamais dans l'histoire accessible au moins, ou connue par moi, modèle plus exact des rapports père-fils, dans leur grandeur et dans leur perfidie et dans leur faiblesse, dans leur côté assez affreux et en même temps assez admirable. Alors voilà, c'est ça qui m'a donné, si vous voulez, le courage de me lancer dans un domaine qui n'est pas le mien, où je suis un amateur éclairé, je l'espère, mais où je demeure tout à fait un amateur.
Commençons, si vous le voulez bien, par Une vie à deux, parce que dans la mesure où Une vie à deux recoupe toute une partie de votre autobiographie, je crois que c'est mieux de savoir ce qu'ont été à la fois les années de formation dans les milieux internationaux de New York, la rencontre de votre grand amour, le suspense, vais-je la retrouver, ne vais-je point la retrouver, enfin c'est un jeu qui est le vôtre, monsieur, et puis l'apothéose à la fin dans des pages magnifiques, vraiment poignantes. J'ai rarement été aussi ému par la fin d'un texte que par la fin de votre texte, Une vie à deux, parce qu'il y a une magnifique preuve d'amour à travers l'épreuve, et on sent à partir de ce moment-là que les choses sont scellées. Mais commençons par une question un peu convenue, j'imagine qu'on vous la posera souvent, mais ça m'intéresse comme d'avoir votre réponse. Ceux qui vous connaissent savent que Jean Blot est un nom de plume, votre véritable nom est Alexandre Bloch, le héros de ce livre s'appelle Alexandre. On sait que vous avez été un fonctionnaire international à New York. Le héros du livre est un fonctionnaire international. Ceux qui vous connaissent savent que votre femme, la femme de votre vie, s'appelle Nadia, qu'elle est d'origine russe blanche. L'héroïne de ce livre s'appelle Nadia, elle est d'origine russe blanche. Vous l'avez rencontrée à New York, elle est devenue peintre, etc., etc. Donc, il n'y a pas de décalage entre la vie telle que vous l'avez vécue et la vie telle que vous la racontez, dans Une vie à deux. Néanmoins, il y a ce mot roman qui se trouve sur la couverture et qui demande quand même une petite explication.
L'explication est double. Bon, la première, c'est que la réalité vécue n'est pas toujours tellement évidente, et même le livre est construit sur les conflits qui existent à propos de la réalité vécue.
C'est-à-dire savoir si
c'est-à-dire
vraiment...
entre Nadia, les mêmes expériences vécues par Nadia, vécues par moi,
surtout la dernière,
différentes. Oui. Surtout la dernière, dans deux, la plus
trois,
tragique.
Voilà, dans deux, trois cas. Mais voilà. Dans d'autres cas, il n'y a pas de conflit.
Il n'y a pas. Il me semble qu'il y a toujours un peu... Enfin, j'ai toujours joué, ou j'ai toujours imaginé que je jouais, ou j'ai toujours voulu jouer, sur ce décalage qu'il y avait entre une expérience et l'autre, un vécu et l'autre.
Ça veut dire que vous avez beaucoup interrogé le vécu de Nadia.
Voilà. Et donc, c'est déjà un mouvement de la réalité, si je veux dire. Mais la véritable raison, c'est que, voyez-vous, pour moi, un roman n'est pas une substance, un roman est une forme. Ce que je veux dire, c'est que c'est donner, faire un roman, c'est donner une certaine forme à un vécu, que ce vécu soit imaginaire ou que ce vécu vienne de la mémoire. Et il a ce vécu, cette forme... un personnage central, il est organisé autour d'un sens, le sens de la vie. Et ce sens de la vie est lui-même organisé autour d'un personnage, c'est-à-dire d'un homme. Le roman est un humanisme radical. Et si vous voulez, dans le livre là que je présente, dont vous parlez si gentiment, l'histoire est tout de même présente. Enfin, il y a Staline fait une apparition, tout au moins Molotov. Vous avez l'histoire de Budapest, vous avez la guerre de Corée. Or, tout cela est très secondaire par rapport à cette question centrale : que va devenir ce jeune homme ? Que va devenir cette jeune femme ? Et c'est comme si le monde entier, c'est le sens du roman. Si vous le placez historiquement, je pense que cela recoupera ma thèse. Le sens du roman est donc ce que j'appelle un humanisme radical, où tout n'a de sens que par rapport à l'homme, et l'homme, d'ailleurs, est le seul qui puisse donner un sens. Or, ce qui est insensé n'existe pas.
Si vous n'aviez pas mis roman sur la couverture de « Une vie à deux », si pour une raison, X ou Y, on vous avait quasi obligé de mettre autobiographie, le texte aurait été conçu différemment et surtout lu différemment par le lecteur.
C'est ce que je crois. C'est tout au moins pour cette raison. Enfin, moi, je l'ai conçu évidemment, comme un roman et j'aurais voulu qu'il soit lu comme un roman, tout en reconnaissant volontiers que c'est aussi près de l'autobiographie qu'il est possible de l'être, étant bien entendu que, tout de même, c'est une autobiographie conflictuelle, double, et donc où chacun regarde un peu l'autre et a tout de même un point de vue assez différent sur ce qu'il est et sur ce qu'il fait.
Parce que vous auriez pu jouer sur cette corde que beaucoup de personnes utilisent, c'est-à-dire changer les prénoms et changer deux, trois cadres. Mais au contraire, vous êtes resté quand même très fidèle à l'histoire vécue.
Voilà, j'ai voulu rester aussi fidèle que possible pour que le roman soit plus apparent. Ça a l'air contradictoire, je veux dire.
Oui, ça a l'air.
Bon, c'est-à-dire de choisir une matière, d'avoir la matière aussi proche que possible de l'autobiographie et d'essayer de donner une forme qui soit d'autant plus romanesque, qu'il n'y avait rien inventé. Il n'y avait rien inventé. Mais le souvenir est aussi une forme de l'imagination, l'imagination une forme du souvenir. Et je voulais insister, si vous voulez, sur le...
Autre choix littéraire, c'est de s'adresser à la personne aimée en lui disant « tu ». Donc à ce moment-là, et c'est très intéressant, parce qu'on va créer un décalage. C'est un homme qui parle à une femme. Et l'homme qui aime cette femme, qui lui parle. Vous avez hésité avant de choisir cette forme ?
Non, je dois dire, c'est le départ. C'est-à-dire, l'idée de départ, c'était... j'avais un titre anglais qui était assez amusant. Je n'avais pas du tout l'intention d'écrire en anglais. C'était « Interviews with my wife ». Et c'était l'idée de revoir toutes ces histoires que nous traînons après nous depuis 50 ans, et d'essayer de comprendre, maintenant qu'on en était suffisamment détaché, qu'on n'était plus directement engagé dans la guerre des sexes, dans le combat de l'amour, dans tout ce que vous voudrez, de voir ce qu'il en restait vu sous cet angle et vu sous l'autre. L'écrivain, c'est moi. Donc, c'est moi qui interroge. Mais, évidemment, j'essaye de respecter, dans la mesure du possible, ce qu'elle me dit, et d'essayer, c'est une matière romanesque, d'imaginer comment elle l'a vécu. Car c'est un effort d'imagination, bien entendu.
On va petit à petit la saisir, on va voir qu'elle a énormément de charme, qu'elle est très belle, qu'elle a son caractère, et que quand elle n'est pas contenante, notamment à la suite d'une histoire avec une autre femme, elle le dit avec une certaine vigueur, mais auparavant, on fait connaissance donc avec le narrateur. Et vous insistez au départ sur le fait que le narrateur est d'origine russe, nous le savions, russe, juif. Et en fin de compte, la judaïté va apparaître un tout petit peu au moment d'une question avec Israël, mais sinon, elle est pratiquement effacée de tout le livre. Mais vous avez tenu quand même à l'installer au départ.
Je pense que j'ai tenu à l'installer au départ parce que l'histoire de ce jeune homme l'histoire de ce jeune homme est intimement liée au fait que...
On part de l'enfance, quoi. Les artistes les gardent toujours, oui. Bon.
Il est intimement lié au fait que pendant 3 ans, il a été menacé de mort par le fait qu'il était circoncis. Et je crois qu'avoir porté la mort dans son pantalon pendant 3 ans vous marque définitivement. Quelles que soient par ailleurs les croyances que vous pouvez avoir ou les adhésions politiques auxquelles vous procédez. Il y a eu cette peur, il y a eu cette réaction, il y a eu cette solidarité, bien évidemment. Il y a eu ma famille qui a disparu, pour ainsi dire. Sur les 11, il y en a 9 qui ont été déportés et qui ne sont pas revenus. Heureusement, j'ai conservé mes parents. Et tout ça, évidemment, vous marque. Mais ça ne m'a pas marqué dans ce sens que... Enfin, j'étais qui j'étais. J'étais cet homme-là. Mais je ne me suis jamais cru obligé de décliner constamment mon identité ou mon particularisme à propos de tout ce qui m'arrivait. Il y avait aussi, c'est une question d'époque, il y avait aussi cette époque où quelqu'un qui remarquait que vous étiez juif était relativement mal élevé. On ne remarquait pas lorsque l'autre disait qu'il était juif. Après la guerre, par réaction avec Sartre, le juif est une création d'antisémites, etc. J'ai été élevé, si vous voulez, dans cela, où je me suis sorti de la première situation peu enviable. Par cela et comme cela, et la seule réaction était effectivement le moment d'Israël, où je me suis dit que tout de même j'aurais dû. Mais il me semblait que mon devoir de juif sortant de ce que vous savez, ayant échappé à l'enfer, tout juste, parce que j'ai été arrêté, enfin, je vais pas raconter tous mes déboires, mais j'avais pour devoir et pour rôle d'assumer un humanisme qui ferait une société où de tels événements deviendraient impossibles. Mais non pas de construire une identité nationale ou de ressusciter une foi que j'avais sans doute en moi, mais qui de nouveau était à l'arrière-plan, qui peut-être expliquait certaines de mes conduites, ou m'interdisait un certain nombre de conduites, mais qui n'était pas une préoccupation quotidienne.
Alors, 22 octobre 1946, Orly, première rencontre. En fin de compte, vous vous voyez à peine, ou elle ne vous voit pas. Mais il y a quand même déjà comme un petit indice. Et puis après, vous allez vous retrouver à New York. Vous dites que vous n'aimez pas l'Amérique. Phrase de vous. Je ne tardais pas à détester l'Amérique. Ça m'a un peu surpris, mais enfin, pourquoi pas. Nous sommes plongés dans l'histoire, la guerre de Corée. Vous êtes dans les milieux des interprètes. Et puis, alors, nous allons arriver à la fameuse rencontre dans une sorte de cabine. Et je ne résiste pas au plaisir de lire un peu ces pages. Comment dire l'impression que fait une femme, l'émotion qu'elle provoque et qui rend soudain heureux. Tu entres, donc vous adressez à elle, on l'a bien compris. Tu entres seulement dans la cabine que déjà quelque chose en moi te demande « Où étais-tu ?» Je vois aussitôt les sourcils régnant sur ton visage qui a quelque chose de velouté, le grand front, les yeux brillants d'un noir scintillant, de malice, une bouche gourmande qui se refuse. Je vois un beau corps bien équilibré sur de belles jambes. Devine tes magnifiques épaules, tes seins petits. Je pressens un mélange singulier d'espièglerie et de hauteur, de sensualité et de noblesse, comme tes lèvres prêtes au baiser, promptes au mépris. Alors là, vous jouez aussi sur le contraste, hein, la sensualité, mais attention, hein, ça n'est pas une femme qui va se donner si facilement. En plus, elle est mariée.
Mais voilà.
Alors que faire? Que fait l'amoureux devant une telle situation?
Bon, il essaye de... Et n'y parvient pas. Bon, enfin, je l'ai invité à visiter Paris, qu'elle connaissait parfaitement. Mais j'ai quand même suffisamment plu pour qu'elle mente et qu'elle prétende ne pas le connaître. Et qu'elle croit reconnaître l'Arc de Triomphe dans la Tour Eiffel et inversement.
Là, voilà une sorte de marivaudage, là, entre vous.
Oui, bah, bien sûr, bien sûr. Mmh. Enfin, j'en étais la victime.
Pourquoi?
En croyant. Non, je n'en étais pas véritablement.
Vous n'êtes pas la victime si 50 ans après,
absolument.
Vous continuez à aimer la même femme.
Non, non.
Je dirais même, on aimerait suivre vos traces. Il va y avoir un grain de sable, une chilienne. Oui, certes, la femme que vous aimez était mariée. Mais vous tombez assez facilement dans les bras de cette femme, même si, vous excusant vous-même, vous montrez que c'est en partie par pitié que vous y allez. Enfin, néanmoins, le fait est là. Et en plus, vous l'invitez en voyage à visiter l'Italie.
C'était malheureux. Ce n'était pas une bonne idée. La vérité, c'est que...
C'était risqué, hein.
Oui et non, parce que nous avions, Nadia et moi, établi des relations. Elle était avec son mari, nous avions une amitié amoureuse, on se tenait la main, on se racontait des choses, etc. Il n'y avait rien de plus. Bon, ça me laissait une certaine marge d'action, si j'ose dire. Et au Chili, j'ai rencontré cette belle dame. Et j'ai eu, effectivement, elle avait l'air très très triste au moment où je devais partir. Et j'ai eu cette idée folle de l'inviter à venir en Europe, parce que c'était effectivement son rêve le plus tendre. Bon, et puis quand j'arrive en Europe, je m'aperçois que Nadia m'y attend.
Ben vous allez vous retrouver dans les Alpes.
Voilà, à Genève.
Et que après, vous êtes cherché, regardé avec beaucoup de, justement, de regards énamourés. Enfin, alors là, tout y est, hein. Avec la lune pour témoin, vous vous unissez d'une manière, disons, plus complète que vous ne l'aviez fait qu'avec les yeux.
Hein, voilà,
je crois que chacun aura compris. Donc vous voilà maintenant coincé entre deux femmes. Vous allez me dire, la situation est classique et elle justifie bien le titre de roman.
Voilà. Merci d'être venu à mon secours. Oui, mais là, je suis vraiment très, très ennuyé, parce que l'une est tout de même à quelques 10 000 kilomètres de chez elle, n'est-ce pas? Et par ma faute, si j'ose dire, ou sur mon invitation. Et je ne puis pas la... Enfin, c'est vraiment quelque chose de douloureux, dont je suis encore assez honteux de m'être mis dans cette situation. Et
vous vous donnez quelques excuses en montrant que vous l'avez fait beaucoup par pitié.
Mais c'est pas vraiment de la... pitié, c'était pas... Ensuite, c'était évidemment pas la pitié. Que voulez-vous? Vous pouvez pas laisser une femme comme ça à arriver à Gênes, alors qu'elle a jamais été en Europe et qu'elle n'y connaît personne. Enfin, c'est pas décent.
Mais alors, il va falloir lui dire la vérité. Et vous attendez.
Et bien sûr.
Et naturellement, l'intuition féminine aidant, elle voit bien qu'il y a quelque chose.
Et forcément.
Voilà, elle vous pousse à l'aveu. Là, il y a de très belles pages, d'ailleurs, sur l'aveu.
Oui. Ça a été dur.
Et vous la voyez toute malheureuse.
C'était dur. C'est très désagréable de rendre malheureux quelqu'un qui vous veut du bien et auquel on veut du bien. Et qui n'est malheureuse que parce qu'elle vous veut du bien. En plus, entre nous, pas à l'époque, mais maintenant, il y a aussi une culpabilité autre. Bien entendu, j'avais rien promis. Mais je m'étais conduit de telle sorte qu'elle pouvait penser que, ne serait-ce que l'invitation. On n'invite pas si facilement des gens du Chili à venir en Italie, à moins que... Voilà. Or, en fait, pour être parfaitement sincère et parler de ce jeune homme que je ne suis plus, encore une fois, j'avais l'idée et que j'aurais une maîtresse en Italie. J'aurais pas en cherché une, et comme ça, je pourrais enfin m'intéresser à la peinture. Donc, le but était parfaitement pédagogique. Parfaitement honorable.
C'est vrai, j'ai pas lu ça. J'ai pas compris que c'était uniquement les tableaux. Et alors, position de l'aimer, celle que vous aimez, de Nadia, devant cette situation. Vous lui dites la vérité, hein?
Il le faut.
Oui. Elle le prend pas si mal. Enfin, oui. Enfin,
la première réaction est assez terrible. Après, elle est tout de même revenue sur...
Elle aurait pu quand même dire, dans ces conditions, adieu.
C'est à peu près ce qu'elle a fait. C'est moi tout de même qui l'ai rattrapé. Oui, bon, l'adieu était évidemment... Il y avait tout de même une petite ficelle qui permettait de revenir. Bah, vous savez comment elles sont.
Et ensuite, donc, avec Nadia, Séville, Tolède.
Alors ensuite, donc, il y a ce conflit, vous comprenez, bien sûr. Comment le résoudre? Eh bien, c'était l'aveu, c'était déchirant, c'était très très pénible, et ça a duré tout de même un certain temps, jusqu'au moment où finalement la chilienne a décidé de partir sans me prévenir, et j'espère qu'elle fut heureuse.
Donc vous retrouvez Nadia, l'affaire est réglée, et vous allez vous retrouver à New York avec quelque chose d'un peu irréel d'ailleurs, donc avec ce nouvel amour. Et là, probablement pour, peut-être un peu pour amuser le lecteur, Jean Blot, vous nous parlez de petites anecdotes qui se passent dans le cadre de l'ONU. Vous travaillez en tant que fonctionnaire international. Et notamment, alors, il y a cette chose qui m'a beaucoup amusé. Une demoiselle chinoise, mademoiselle Liu, Miss Liu, une demoiselle chinoise qui, étant interprète, a fait vœu de silence. Et en fin de compte, le règlement lui autorisait.
Mais absolument, parce que elle avait elle-même consulté les droits de l'homme, et, enfin la charte des droits de l'homme, et elle en avait conclu qu'elle avait le droit de faire vœu du silence. Oh, elle était fatiguée, elle en avait assez du métier d'interprète, et elle est arrivée un matin en se taisant, pas moyen de lui sortir un mot. Nous avions deux princes, là, qui étaient des complices, et qui avaient en particulier le goût de chatouiller. Ils s'étaient aperçus que les Chinois étaient très chatouilleux. Ils ont essayé de la chatouiller, ça n'a rien donné. Et finalement, ils étaient obligés de lui reconnaître ce droit, le droit au silence. Alors, elle s'est tue pendant à peu près une semaine, et puis après, on l'a mise à la traduction par écrit. Là, elle ne pouvait rien faire. Elle a trouvé ça très ennuyeux, et elle a levé son vœu de silence, et tout est rentré dans l'ordre. Et elle a gardé, je dois dire, son amabilité et son sourire à travers tout l'incident.
Pendant cette période, vous lisez Proust à haute voix, à Nadia, et il arrive malheureusement qu'elle s'endorme un peu. Mais comme elle se souvient quand même de la dernière phrase et que, d'une manière un peu coquine, vous lui demandez de la répéter, elle peut quand même vous la répéter.
Elle était extraordinaire. Ça, vraiment, c'était étonnant. Elle dormait quand je disais « Nadia, tu dors ?» Elle disait « Non, l'air indigné. » Dit la dernière phrase, elle la disait. Or, je puis jurer qu'elle dormait déjà depuis 10 minutes. Mais c'était une habitude acquise.
On va pas recommencer le débat conjugal, parce que si elle vous entend et si elle dit non, je ne dormais pas, voilà. ce qu'elle affirme dans le livre.
C'est le livre.
Oui, alors,
c'est ça la substance.
Oui,
du
mais
livre.
Alors, 40-50 ans après, vous allez recommencer.
Ah non, on en est toujours au même point.
Ça n'a pas bougé.
Non, elle n'a pas cédé.
Et puis à la fin, justement, pendant une de ces lectures, vous vous rendez compte que quelque chose de grave arrive. Donc on ne va pas déflorer la fin, mais c'est le moment le plus extraordinaire de ce livre, et c'est le moment où on sent vraiment que quelque chose de définitif s'est scellé entre vous. Alors maintenant, donc, place à Mozart. Bien, eh bien écoutez, après l'amour d'abord lent et ensuite fulgurant que vous avez vécu et que vous relatez avec cette fin extraordinaire dans Une vie à deux, roman publié aux éditions du Rocher, Jean Blot, nous allons nous retrouver avec Mozart, introduit justement par cette musique un peu attendue, avouons-le. Vous nous avez expliqué pourquoi vous avez choisi Mozart et pourquoi, après avoir consacré beaucoup de vos énergies à nous faire découvrir des grands textes et des grands romanciers que vous aimiez dans la littérature européenne, à la fois contemporaine et ou du 19e siècle, vous avez choisi Mozart. Et vous avez insisté tout à l'heure pour nous dire que ce qui vous a frappé, ce qui frappe d'ailleurs tous les biographes, c'est ce lien si fort, si extraordinaire entre le père et le fils et le sacrifice du père. Cela dit, quand on lit d'autres biographies, Certains considèrent que le père s'est servi du fils. Mais on découvre à travers votre texte que le père n'a pas gagné d'argent, qu'il était pratiquement toujours fauché, et c'est plutôt une image positive du père de Mozart que vous donnez.
Oui, Léopold est un personnage très complexe, et quitte à faire un mot, c'est lui le plus intéressant des deux. Il y en a un qui est génial, mais ce n'est pas Léopold. Mais lui, c'est un personnage très complexe, et c'est vraiment l'incarnation du père. Il a fait un cadeau immense à son fils, il lui a donné une confiance en soi, en Hérin. Mozart a douté de tout, il n'a jamais douté de la grandeur de son talent. Quant à l'argent, non, c'est vrai qu'il a exploité le petit qu'il en a fait. Ils ont fait des tournées, il a gagné pas mal d'argent, et il est mort, Léopold est mort assez riche. Enfin, il a laissé l'équivalent de 30 000 florins, ce qui fait l'équivalent d'un demi-million d'euros, n'est-ce pas? Or, il avait l'air
tout le temps fauché, de ne voilà. pas pouvoir Alors, trouver l'argent, même pour les voyages qu'il devait faire pour présenter les œuvres de Mozart.
Alors, vous savez, il y a un mystère de l'argent pour le père et pour le fils. Bon, les voyages coûtent très cher, ça rapporte ou ça ne rapporte pas, il n'y a pas des gains réguliers, et n'oubliez pas que presque toutes les lettres que nous avons de Léopold sont adressées à cet ami Agna, qui est son bailleur de fonds, c'est-à-dire qu'il fait en même temps un rapport sur ce qui se passe. Évidemment, à chaque fois, il a intérêt à dire que ça va très mal du point de vue financier, puisqu'il a besoin d'argent. Mais je vous dis, la conclusion était, et d'ailleurs l'appartement, le deuxième appartement de Salzbourg est somptueux, enfin c'est un très très bel appartement, mais il a toujours, enfin il est de ces gens qui étaient toujours très inquiets, il a connu la misère, ou il a craint de la connaître, de toute façon, la situation de musicien à l'époque était peu enviable, et il avait, et la misère était très grande, je veux dire là vraiment on tombait dans la faim et dans le, c'était pas, il n'y a pas de sécurité sociale. Donc il était très inquiet toujours, et il se plaignait tout le temps. Ça, c'était aussi un trait de caractère.
Absolument. Donc, on associe toujours la famille Mozart à Salzbourg, mais vous dites que lui, le père, était originaire d'Augsbourg, ce qui crée une sensibilité différente.
Alors oui, parce que Augsbourg était une ville libre, enfin, était une ville qui était administrée par ses bourgeois. Comme Mozart, d'ailleurs, a pu le constater lui-même, c'est cette noblesse bourgeoise qui administrait la ville, sur le plan de l'insolence et de la méchanceté, n'avait rien à envier à qui que ce soit. Mais enfin, ça créait tout de même une atmosphère assez différente. Ensuite, il y avait aussi une influence protestante qui était plus grande. Tandis que Salzbourg est évidemment un lieu très catholique, puisqu'il a pour souverain un archevêque. Et d'ailleurs, il avait expulsé ses protestants une génération, si j'ose dire, avant Wolfgang, c'est-à-dire lorsque Léopold était déjà là. Il n'était peut-être pas encore à Salzbourg. À Salzbourg, Léopold quitte Augsbourg de façon assez bizarre, arrive à Salzbourg, se trouve un travail comme musicien, et bientôt prospère relativement, enfin il arrive au rang de vice-Kapellmeister, et l'horreur de sa vie, c'est qu'il n'est jamais arrivé à être Kapellmeister.
Oui, peut-être justement parce qu'il a sacrifié son temps et qu'il a donné son temps à son fils.
Il a donné plus que son temps, il a vraiment fait de son fils ce qu'on appellerait en psychanalyse l'idéal du moi. C'est-à-dire que lorsqu'il parle du fils, notamment à Rome, c'est même très émouvant, il dit « nous » tout le temps, mais en même temps, il dit avec beaucoup de satisfaction qu'on le prend pour le serviteur de son fils. Le fils a 13 ans. Et tout ce qu'il voulait réaliser, il le réalise par Mozart. Et puis, il y a vraiment un côté mystique qui est très beau, qui est peut-être un trait de la paternité, mais qui est vraiment très, très beau. Il croit vraiment au fait que Dieu lui a confié cet enfant. N'est-ce pas ? Il lui a confié ce miracle, et il lui appartient de le faire connaître au monde.
Donc, le miracle, c'est le miracle des dons. Vous dites, d'ailleurs, vous écrivez vous-même, Jean Blot, dans votre Mozart, publié aux éditions Gallimard, dans la collection Folio, vous dites que c'est le seul enfant prodige entré dans l'histoire. Donc, il était extraordinaire tout jeune. Mais il est d'abord imitateur, avant de devenir créateur. et vous essayez d'analyser dans votre livre le passage de l'imitation à la création. Et cela, c'est passionnant à observer.
Je vous remercie, parce que oui, c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Vous comprenez, quelle est l'origine de l'enfant prodige? Et notamment, vous vous souvenez, il y a des observations très curieuses. On observe le regard rusé du petit garçon. On demande au petit garçon d'improviser des musiques sur le thème de la jalousie, sur le thème de, des choses qu'il ne peut absolument pas connaître, de l'amour. Et donc, selon moi, c'est parce qu'il a un don mimétique, n'est-ce pas ? Et c'est ça qui fait l'enfant prodige. Mais il entre dans l'histoire, d'abord, étant donné qu'il est entré dans l'histoire, il y a aussi ceci très particulier. C'est l'un des très rares grands hommes qui a une enfance. Personne ne connaît l'enfance de Jules César, ni s'y intéresse. Personne ne connaît l'enfance d'Alexandre, ni s'y intéresse. Enfin, on les rencontre en général à l'âge de l'adolescent, tandis que l'enfance de Mozart est présente dans le mythe et dans la connaissance de Mozart toujours. Et puis surtout, il y a ce moment extraordinaire, et alors là, vraiment miraculeux, parce que vous comprenez bien que tout ce qui est mimétique, que tout ce qui est imitation, ne peut que détruire le talent original, ne peut que saper les possibilités de création. Et voilà que tout à coup, il y a ce papillon qui sort de cette chrysalide sans que l'on puisse comprendre ni expliquer pourquoi.
Bon, maintenant, allons vite dans le temps. On va le retrouver à 20 ans. Et à 20 ans, on sent, à vous lire, Jean Blot, qu'il se demande quel musicien il va devenir. Les choses ne sont pas données. Le don est là, la célébrité européenne, c'est-à-dire internationale, disons, est là, mais quel musicien devenir ? La question se pose encore, malgré des tournées triomphantes dans différentes capitales.
Elle se pose d'autant plus, si j'ose dire, parce que c'est tout de même terrible, à 20 ans, d'avoir déjà une personnalité. Comment s'en défaire ? Comment grandir ? Comment s'en séparer ? Oui, il est connu comme enfant prodige. Et tout le monde cherche en lui l'enfant prodige et trouve un garçon qui n'est pas bon, qui est pas mal, qui est pas très beau, qui est pas très grand, qui est plutôt boudeur, qui n'est pas...
Il est gay, il est plein.
Il a une merveilleuse gaieté.
Oui, et à travers les lettres que vous citez, vous en citez abondamment, il est quand même très très gay.
Merveilleux.
Il y a un charme fou qui se dégage de ses lettres. Hein. Les lettres qu'il écrit à sa sœur ou à d'autres, ou à son père ou à sa mère quand il est en voyage. Il y a une joie de vivre merveilleuse. Un angoissé, mais avec une magnifique joie de vivre. Hein. On en revient donc à ses 20 ans, le moment où se pose la question, non pas du « qui suis-je », mais de... Quel musicien vais-je devenir ?
Voilà, et c'est un moment très difficile. Et alors, il y a ce miraculeux concerto, le concerto jeune homme, le genre de choses qui n'arrivent qu'à Mozart. Ce jeune homme est une jeune dame. Cette jeune dame est restée un mois à Salzbourg, et il lui a consacré un concerto qui est absolument génial et qui est le début, à mon sens, du grand Mozart. Je reste très fidèle au Mozart antérieur, à celui que l'on méprise un peu par le terme de galant, à ce Mozart qui continuera d'ailleurs jusqu'au bout à s'incarner dans quelque chose qui, s'il était peintre, serait du Watteau ou du Lancret ou quelque chose comme ça. Alors, on ne veut pas reconnaître la profondeur, l'importance, la gravité de ce moment où la jeunesse d'un monde... qui s'appelait l'Ancien Régime, c'est tout de même la jeunesse d'un monde est menacée et condamnée, et le tremblement, la grâce et le tremblement qui ressort de cela. Mais enfin, peu importe, à partir du concerto jeune homme, nous avons un autre Mozart, et nous avons un Mozart devant lequel on ne peut que s'incliner par toutes les créations géniales qui seront les siennes, qui culmineront évidemment dans les grands opéras.
Oui. Alors vous attachez une grande importance à Idoménée, comme si cette pièce marquait une rupture.
Oui, d'abord, le sujet en est merveilleux, parce que c'est le moment où Mozart comprend qu'il faut tout de même qu'il se sépare de son père, et il sait vraiment pas comment, et alors il imagine, mais il tombe comme par hasard, les grands hasards font les grandes personnalités, et Mozart a la chance de tomber toujours sur de merveilleux hasards comme celui-là. L'histoire d'Idoménée, c'est l'histoire d'un père qui finalement abdique, très heureux d'abdiquer, et dit à son fils qu'il devait trucider au début, que finalement il ne trucide pas parce qu'il y a des arrangements avec Neptune, etc. Tout ça n'est pas très convaincant comme histoire. Ce qui est convaincant comme histoire, c'est que père et fils se séparent amis, le pouvoir est au fils et le père, on ne sait pas comment, est heureux. Et donc, probablement qu'il y a quelque chose dans cet opéra, qui est très beau par ailleurs, qui porte à côté du sujet, qui est un peu, il n'est pas toujours très convaincant, dirons-nous, il y a cet arrière-fond qui lui donne sa gravité et sa valeur.
Voyons avec vous le problème important qui se situe dans un contexte qui n'a rien à voir avec le contexte d'aujourd'hui, il faut bien le préciser, et un contexte qui n'est pas non plus le contexte français où franc-maçonnerie et Église se sont beaucoup plus combattus que dans certains autres pays, mais Mozart catholique, et vous avez de très belles pages pour nous montrer que très profondément vous êtes sûr qu'il est resté catholique, Mozart catholique devient franc-maçon.
Oui, assez curieusement, à l'époque, il n'y a pas de contradiction, même si la franc-maçonnerie était certainement orientée, au moins contre une certaine tendance du catholicisme. Disons, la tendance intolérante. N'est-ce pas ? Vous avez affaire à une Europe qui est marquée par la guerre des religions. La guerre des religions a été quelque chose d'atroce, décimé l'Allemagne, endommagé la France... et beaucoup d'autres, mais surtout, et l'Angleterre d'ailleurs, mais surtout elle a prouvé une chose absolument terrible et qui secoue, bouleverse la conscience. Dieu qui était fait pour nous réconcilier et qui nous enseignait qu'il fallait nous aimer les uns les autres, a été l'occasion des pires massacres. Et ça, ça a ébranlé la conscience sans pour autant ébranler la foi. Mozart a la foi comme vous conduisez à droite. C'est-à-dire... Non, enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est parfaitement naturel, n'est-ce pas ?
Vous citez vous citez des lettres de lui où on sent un engagement plus profond que ce que vous venez de dire.
Sans doute, mais lorsque je dis « conduire à droite », je veux dire quelque chose d'assez profond. C'est-à-dire, je veux dire que c'est naturel, n'est-ce pas ? C'est devenu une nature. Alors, parfois, il y réfléchit, c'est vrai. Et vous, non, vous avez raison, c'est... Il y a effectivement des moments où, soit dans le malheur, soit lorsqu'il est amoureux, soit lorsqu'il ne sait pas comment, effectivement, il se retourne vers Dieu, il croit en le Dieu catholique. L'engagement maçonnique est à côté. Il fait partie d'un certain milieu auquel Mozart va accéder, auquel il va appartenir, et qui est un milieu de ce qu'on appellerait aujourd'hui des intellectuels, il y a des savants, il y a des hommes d'État. Et il y a même, et surtout, le mari de Marie-Thérèse, l'impératrice d'Autriche, qui est lui-même empereur d'Allemagne, qui est donc un franc-maçon actif, et tant qu'il est franc-maçon, il n'y aura pas de persécution. En revanche, dès qu'il disparaît, les persécutions commencent. Le rôle de la maçonnerie a été très important pour Mozart, dans la mesure où ça a été son accès aux problèmes sociaux. Il y a une chose qui est frappante et très décevante chez Mozart, et c'est qu'il a été le protégé, mal aimé, il faut bien le dire, de Grimm, enfin quand même, il était chez Grimm, il aurait pu connaître Voltaire, il aurait pu connaître Diderot, il aurait pu connaître d'Alembert, ça ne l'intéressait en rien. Tout ce mouvement d'idées, il n'y a pas une idée dans Mozart, sauf la tolérance. Et là, alors, dès son premier opéra, la tolérance apparaît. Cette tolérance qui est aussi un versant de l'égalité. Car si Mozart a une passion, s'il est vraiment blessé quelque part, c'est dans son égalitarisme. C'est dans le fait qu'il a été vidé de chez l'archevêque avec un coup de pied au cul. Et même avant cela, il avait été souvent humilié. Ces humiliations, il ne les pardonne pas. C'est ces humiliations dont il cherche la compensation dans la maçonnerie. Et évidemment, il donnera à la maçonnerie sa musique et mettra en musique sa philosophie.
Dans les Noces de Figaro, on peut considérer qu'il y a un engagement social.
Tout à fait.
Même si le fond de l'affaire est aussi une question amoureuse. Hein, et vous montrez très bien... combien il s'agit du règne des femmes, l'importance des femmes. Mais il y a aussi quand même le valet qui, dans certains cas, répond vertement au seigneur.
Bien sûr, et on a toujours tendance à entendre le Se vuol ballare il signor Contino, si vous voulez danser mon petit conte, on a tendance à entendre une réponse au conte, au jeune conte qu'il avait vidé de chez l'archevêque avec le coup de pied, etc. Et il y a un engagement social, mais voyez, oui, alors social, mais pas politique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de projet politique ou de pensée ou de réflexion politique. Il y a une volonté d'égalité. Et évidemment, le problème amoureux se pose aussitôt. Je veux dire, c'est bien sûr d'abord l'égalité en amour.
En amour, donc il épousait une femme qui n'était pas celle qu'il aurait voulu épouser, parce qu'il aurait voulu épouser la sœur, il l'épouse. Alors, les biographes sont souvent partagés vis-à-vis d'elle. L'a-t-elle vraiment secondée et aidée ? Était-elle accablée par une sorte d'angoisse qui fait qu'elle ne l'a pas suffisamment aidée ? Quelle image vous faites-vous d'elle ?
C'est difficile à dire. Constanza n'est certainement pas une femme de grande intelligence, ni de grand talent de musicienne. Elle a chanté, mais enfin c'est peu de choses par rapport à ses sœurs notamment, qui étaient au contraire des grandes cantatrices. Mais d'abord Mozart en était toujours assez amoureux. On a l'impression, à travers la correspondance, que les relations étaient assez bonnes. Il y avait une véritable fraternité. On ne sait pas pourquoi il y a un incident exquis où il est, c'est les dernières heures, il doit absolument finir ça. Le Don Juan et notamment l'ouverture de Don Juan, et pour le garder éveillé, Constanza lui raconte le petit pousset, des contes de ce genre. On ne sait pas pourquoi Mozart a des fous rires et trouve ça très très drôle. Donc on a en tout cas l'impression d'un couple qui s'aimait, qui se tolérerait, qui vivait assez bien ensemble. Qu'il y ait eu des infidélités de Mozart, c'est certain, et qu'il y ait eu des infidélités de la dame, c'est probable. Qu'il n'ait pas aimé ça, c'est certain. Qu'elle en a souffert, c'est l'évidence. Mais bon an, mal an, je trouve que c'était un couple. Et en plus, après la mort de Mozart, alors elle s'est révélée, au contraire, une femme d'affaires tout à fait étonnante. Elle a fait prospérer. Là où Mozart n'avait fait que des désastres financiers, là au contraire. Très bien.
Et vous pensez qu'elle l'a bien soutenu dans les dernières années, quand il était abandonné, il n'était plus à la mode à Vienne. Bon, il avait eu des succès à Prague, mais il n'était plus à la mode à Vienne. On le sent seul, il n'a plus beaucoup d'argent. On ne sent pas beaucoup une présence fortement amoureuse et un soutien moral fort de sa part.
Non, mais vous savez, ce n'était pas le genre de... Non. Le soutien, certes pas, mais enfin, comment vous dire, une femme à l'époque ne soutenait pas son mari. Bon, j'exagère un peu, mais je veux dire, elle était tout de même tenue assez à l'écart, n'est-ce pas ? Il était difficile de faire appel à elle alors qu'on l'avait tenue à l'écart jusque-là. Moi, j'ai plutôt une impression favorable.
Je pense que par rapport à d'autres biographes, je vous trouve plutôt favorable.
Hein, plutôt favorable.
J'ai lu des textes qui étaient assez assassins à son égard, qui prennent parti pour
lui. Je ne crois pas qu'ils soient justifiés.
Alors, le Don Juan. Et vous montrez, par une analyse assez approfondie de cet opéra, vous montrez qu'on ne peut pas voir dans cet opéra un lien entre Eros et Thanatos. Et au contraire, que c'est l'exaltation de l'amour qui n'a pas besoin de la dimension de la mort pour acquérir sa profondeur.
Ça, je le pense, oui. N'est-ce pas ? Don Juan, je crois que c'est tout de même l'une de ses grandeurs, le Don Giovanni, n'accepte jamais de baisser pavillon. C'est-à-dire, il n'accepte jamais la mort, autrement que comme un événement auquel on ne peut échapper. Mais nullement, il n'y a jamais complicité à son égard.
Et puis, bon, la flûte enchantée, passons, je renvoie les auditeurs à votre texte, arrivons au Requiem. C'était une commande de quelqu'un qui se cachait parce que, en fait, il voulait faire croire à ses amis que ce serait peut-être lui qui l'avait composé. Mozart accepte d'autres commandes en même temps, il a beaucoup de mal. Il s'y met avec beaucoup de cœur, mais il va mourir avant de l'achever, en donnant les indications de la manière de comment l'achever. Et pour vous, ça ne fait pas de doute que c'est un requiem pour lui-même.
Oui, je vais vous dire, pour une raison très simple. Comment voulez-vous écrire un requiem sans penser à la mort ? faut être logique. Si vous écrivez un requiem,
penser à la mort d'une manière générale sans forcément penser à la sienne.
Lorsqu'on ne se porte pas très bien, on a certaines tendances à penser à la sienne. D'ailleurs, de toute façon, on pense très mal à la mort si on ne pense pas à la sienne. Je veux dire, un grand artiste doit penser à sa mort s'il veut penser à la mort. Autrement, vous pouvez faire des thèses plus ou moins intéressantes. Donc ça, c'est la première chose. La seconde, oui et non, parce que, vous savez, je l'écris, c'est quelque chose d'absolument surprenant. Vous lisez une lettre de Wolfgang, où il dit à sa femme que voilà, il faut faire ceci, il faut faire cela, il n'est pas content de ceci, il est content de cela, il est ravi, tout va bien, etc. Et puis ensuite, tout à coup, vous avez un texte de Constance qui dit « Notre grand Mozart ». Pourquoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors on comprend qu'entre, sur la même page, entre un paragraphe et l'autre, Mozart est mort. Mais le bonhomme que vous venez de quitter à l'instant, est parfaitement vivant. Parfaitement vivant. Et, bon, il a pensé à la mort comme il a pensé à beaucoup de choses. Je veux dire, avec le génie qu'il avait. Alors, oui, il se sentait mal. Oui, il était malade, mais tout de même, il était vraiment la dernière lettre. Marquez, la dernière lettre est tout de même, il y a tout de même deux mois.
Il le sent, là, il le sent venir.
Il le sent.
L'enterrement est assez sinistre, mais vous-même, vous le rattrapez avec de l'humour, puisqu'il y avait deux canassons, qu'il y avait pas assez d'argent pour faire un enterrement de qualité, et vous dites que ce sont ces deux canassons qui nous représentent.
Ben oui, je l'espère, parce que c'est une honte. Un homme qui a apporté à l'humanité tant de bonheur d'aller tout seul là-bas. Où il devait, l'enterrement a été fait dans des conditions honteuse, que rien n'explique. Et on vous dit toujours, mais c'est comme ça que ça se passait d'habitude, c'était la règle. Oui, mais justement, il s'agissait là d'une exception.
Ainsi se termine Fort Intérieur avec comme invité Jean Blot qui a choisi les musiques que vous avez entendues. Vous ne serez pas étonné si elles proviennent des œuvres de Mozart. Tout d'abord, nous avons entendu au milieu de l'émission l'ouverture des Noces de Figaro et actuellement l'Larghetto du concerto pour piano numéro 27. Fort Intérieur, une émission d'Olivier Germain Thomas, préparée avec la collaboration de Catherine Donnet, à la technique Serge Ristich, chargé de réalisation Didier Lagarde. Nous n'avons pas au cours de cette émission embrassé la totalité de l'œuvre de Jean Blot, c'était impossible. Donc nous nous sommes appuyés sur ces deux derniers ouvrages dont je recommande la lecture, pour les mélomanes et pour tous ceux qui s'intéressent à la culture d'une manière générale. Mozart par Jean Blot, donc texte inédit, publié directement en collection de poche dans cette belle collection Folio Biographie chez Gallimard. Et puis, cet amour magnifique de 50 ans, enfin, en fin de compte, on n'a pas les 49 suivantes années, mais enfin, on a la naissance, et la naissance est telle qu'on imagine effectivement que les 50 années suivantes ont pu s'épanouir avec des hauts et des bas, bien sûr, mais toujours avec intensité et avec grandeur, donc de Jean Blot, Une vie à deux, roman publié aux éditions du Rocher. Thank you.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 15 juin 2008. Rappelons que Jean Blot vient de publier chez Gallimard, dans la collection Le Sentiment Géographique, un recueil de textes, Tout sera paysage. Vous pourrez réécouter cette émission durant 1000 jours, en ligne, ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.